16h-17h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non?
Bel après-midi avec Europe 1, vous avez bien fait de nous choisir puisque vous allez passer la prochaine heure à rire avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Europe 1.
Mes chers compatriotes, mes chers amis, c'est vrai, c'est indéniable, j'ai aujourd'hui à mes côtés deux tontons et une tata, donc un tonton et une tata de très belle facture, qui, s'ils ont eu des destins, ma foi, fort différents, se retrouvent aujourd'hui sur une même ligne commune, la seule au fond possible, celle de l'intelligence et de l'originalité. Ouais, notre tata flingueuse, c'est Ovidie. Ouais, et notre tonton flingueur, Frédéric Taddeï. Ouais. J'ai connu dans une autre vie, ici même.
Exactement.
Dans les locaux de Canal+. Et moi, j'étais resté vigile à Canal+. Alors vous allez, cher Tata Ovidie, cher Tonton Fredo, être soumis au feu roulant des questions politico-sociétales de ce quiz en 6 manches. Là où le gagnant aura le bonheur, que dis-je, la joie ineffable, celle que l'on ressent à 4 ans, le jour de Noël, de repartir avec un cadeau de derrière les fagots. Mais comme ce quiz citoyen a pour but, d'abord et avant tout, de réduire la fracture sociale, l'un de vous va représenter la France d'en haut et l'autre, la France d'en bas. Les gilets jaunes, en quelque sorte, contre les gilets en cachemire de soie boulochée. Anissa, faites votre devoir citoyen.
Absolument. Alors, c'est Frédéric Taddeï qui va tirer
au
sort.
Ah, il y a plus d'urne transparente aujourd'hui.
On a un problème de budget, là, aujourd'hui.
Très bien. C'est...
Voilà, je le lis moi-même.
Absolument.
Tu le lis toi-même.
Donc je peux dire ce que je veux.
Non, parce qu'on vérifie en même temps.
France d'en bas.
Ah, tu joues pour la France d'en bas.
Ça me paraît normal.
Oh, mais alors, quelle injustice.
Tu vas jouer, toi, Ovidie, pour la France d'en haut. Alors justement, puisque tu es là, tu joues, si tu gagnes, pour une paire de boules qui est en or, assortie d'un masque de sommeil pour avion, serti de diamants, 64 carats, elles te permettront de ne pas entendre les vociférations de gilets jaunes suite à l'appel de tes amis, les 86 députés qui réclament qu'on rétablisse la taxe carbone. Quant à toi, mon cher Frédéric, tu joues pour le prix France d'en bas. Une après-midi d'angoisse dans un tout petit appartement de Saint-Acheul, un quartier du centre d'Amiens, près de la gare. Là, dans quelques sacs Carrefour, tu auras 3 millions d'euros. Mais tu ne vas pas en profiter bien longtemps, car j'entends qu'on frappe à la porte. Ce sont les policiers de la PRI. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, Anissa ?
Eh ben, c'est l'heure des bio-fake news. On va raconter vos vies avec parfois peut-être des petites erreurs.
Alors, jingle. Alors, je résume la situation. Ganesh, oui, vient de La Réunion.
Tout à fait.
Son rêve, travailler pour BFM TV tous les jours.
C'est vrai.
Il essaye de faire la voix à BFM TV.
Après son bac, Frédéric Taddeï entreprend un parcours supérieur pour devenir touche-à-tout de génie. Comme il n'existe aucune formation clairement identifiée, il s'inscrit en faculté 10 années consécutives dans 10 domaines, mettons un point d'honneur, à ne jamais dépasser le stade de la première année. Droit, histoire, sémiologie, philosophie, philologie, langues orientales, serbo-croates, cours de code, karaté, tournage, fraisage, production de weed bio entre 20 et 30 ans. Frédéric tente tout. Désespéré, ses parents, entre eux, l'appellent Tanguy et envisage même de le faire éliminer.
C'est horrible.
C'est pas tout à fait faux. Il exagère un peu, mais c'est pas loin.
Bah, ils étaient très cool, tes parents. Ils t'ont, ils t'ont laissé glander une dizaine d'années, mais ce qui t'a transformé en Frédéric Taddeï.
Exactement.
Sinon, t'aurais fait quoi?
C'est une question qu'ils n'ont jamais voulu se poser.
Mais toi, tu te l'es posé.
Oui, ben à un moment...
Tu peux dire, merde, imagine, tu fais une prépa, tu te retrouves à HEC, je sais pas quoi, et tu deviens quoi?
Ah bah oui, aujourd'hui, je serais dans un chalet à Gstaad, je m'emmerderais à mourir.
Tu veux dire celui de Roman Polanski?
Non, dans le mien. J'aurais à la retraite, j'aurais arrêté de travailler, ça c'est plutôt sympa, mais non, je m'emmerderais terriblement.
Eh bien maintenant, on va jouer avec Tata Ovidie et je repasse le flambeau, la parole au jeune Ganesh.
Ovidie, né Héloïse Becht à Lille, de parents fonctionnaires, ancrée plutôt à gauche, pendant son adolescence, elle crée une antenne locale du Scalp, la section carrément anti-Le Pen, puis se convertit à une forme de féminisme dur, qu'elle qualifie elle-même d'intégriste. À 16 ans, elle découvre l'existence de la pornographie dans Pif Gadget. Le gadget de la semaine étant un petit canard vibrant et comprend alors, dans un éclair de génie, que la pornographie peut être un véritable outil de libération de la femme.
Bah c'est des conneries, mais pif, c'est des conneries, mais le reste, c'est vrai.
Pas complètement. Becht, c'est pas mon nom, ça, c'est un nom qui circule sur, sur Internet. Ah bon, à la rigueur, bah, je le laisse.
C'est nous, source.
Non, mais c'est source Wikipédia, je vous félicite pas.
C'est BFM TV en même temps.
Mais c'est pas Becht, c'est quoi? C'est ce que tu veux, un peu.
Non, oui, voilà. Bon, alors, mais Héloïse, c'est vraiment mon prénom, pour le coup, je m'appelle vraiment Héloïse.
Bon, alors, Héloïse, dis-moi la vérité.
Ouais.
Tu te passionnes pour ce qu'on appelle le féminisme pro-sexe. C'est quoi?
Alors, le féminisme pro-sexe, bon, j'en suis un peu revenue. Hein,
là, c'était très jeune.
Mais effectivement, le féminisme pro-sexe, en gros, ça vient d'une scission dans les milieux féministes où, vraiment, pour simplifier, il y a une partie des féministes radicales qui s'opposent au travail du sexe, la prostitution, la pornographie, qui veulent l'abolition. Et une autre partie du féminisme qui dit, bon, écoutez, de toute façon, on ne va pas l'éradiquer comme ça. Donc, autant faire avec les outils, autant revendiquer des droits pour les travailleurs du sexe, autant proposer une pornographie féministe différente, etc. En gros, c'était récupérer, se battre contre l'ennemi sur le même territoire mais et avec les mêmes armes.
Maintenant, tu as quitté tout ça, cet univers-là.
Non, c'est pas que j'ai quitté vraiment, mais c'est plus que déjà, ça correspond à une époque, premièrement. Oui. C'était intéressant de le faire fin des années 90, début des années 2000. C'était intéressant de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et puis, aujourd'hui, bon, voilà, j'ai pris conscience petit à petit, mais là, je vais faire mon autocritique devant les membres du parti, là. Mais en gros, j'ai pris conscience avec le temps qu'il y avait une récupération spectaculaire, je dirais, du féminisme, et que j'en faisais partie de fait, et j'en fais toujours d'ailleurs partie, je suis là, je suis sur Europe 1 avec vous, donc quelque part je participe aussi à cette spectacularisation du féminisme, donc voilà, je suis un peu dans cette position un peu inconfortable, je me dis, je fais partie du problème ou de sa solution, je sais pas trop, voilà.
Ganesh, je vais essayer de nous aider à comprendre.
Avec la voix de Morandini, ça vous dit?
Vas-y.
Ovidie se présentait comme une travailleuse du sexe féministe, ce qui lui a valu d'être surnommée à l'époque l'intello du X. Ovidie veut déculpabiliser les femmes vis-à-vis de leur corps afin qu'elles cessent d'avoir peur de leurs désirs. Ovidie refusait les pratiques sexuelles qu'elle estime dégradantes et exigeait d'utiliser le préservatif sur les tournages. Rocco Siffredi n'en trouvant aucun à sa taille, Ovidie décida de tout plaquer pour devenir réalisatrice de documentaires.
Et c'est vrai, récemment, ton documentaire Pornocratie dénonçait le fait que l'industrie du sexe ne domine plus à cause d'Internet.
L'ubérisation de l'industrie pornographique.
N'importe
en fait.
Qui maintenant peut voilà. faire en gros du porno, même Ganesh, qui s'y emploie
oui,
énormément.
Sur Uber, on trouve que des bagnoles. Hein. Moi, j'ai cherché les enfants.
Bon, alors, j'ose pas parler d'Anissa, bien entendu, mais vous pouvez la retrouver
Merci
certainement.
Merci pour votre discrétion, Carl.
Donc, sans aucun contrôle, des vidéos porno et qui regardent eh ben, en priorité des gosses.
Pas en priorité, mais en grande partie, puisqu'aujourd'hui, 70% du porno consommé par les mineurs passe par les smartphones, le même smartphone qu'ils ont quand ils partent avec à l'école en 6e, le même smartphone avec lequel ils s'enferment dans leur chambre, etc. etc. Donc oui, il y a une consommation des
on
mineurs
est
qui
très loin
qui est
de lui dont tu parlais tout à l'heure quand on était nous des enfants et on
du
découvrait...
catalogue La Redoute.
Mais
le catalogue, cher chevalier, Las Palès.
On aurait adoré ça, de pouvoir regarder des films porno sur nos téléphones, mais évidemment. Et d'ailleurs, rien ne prouve que c'est mauvais.
Bah si, les enfants sont complètement starbés dès 12 ans maintenant, ils savent des trucs dont on ignorait tout.
Le savoir n'est pas encore un défaut.
Oui, mais on verra ce que ça donnera quand ces gars-là auront notre âge.
Quand ils le feront.
Mais j'ai peur qu'ils le fassent un peu à l'école. Ovidie, il y a un débat là qui est lancé.
Ah là là, alors on pourrait en parler pendant des heures hein, en fait, mais en fait ça dépend à quel âge ils tombent dessus aussi. L'âge a pas mal chuté. Moi je vois, j'interviens pas mal en lycée, en collège, pas pour leur faire la leçon hein, du tout, parce que c'est pas ma position, je suis pas ni policière pour faire de la prévention, ni animatrice du planning familial, donc je ne suis pas là pour faire l'éducation sexuelle, mais ce qu'ils me racontent quand même, c'est tous à peu près, ils y ont accès vers 9-10 ans, et ça a un impact, ils sont pas aussi, c'est pas une société qui est en train de se putaniser comme on le raconte souvent, c'est pas la décadence finalement,
ils
restent
très
toujours
cool.
très fleurs bleues, cool. etc. Mais au niveau des filles, ça leur pose pas mal d'interrogations par rapport à leur rapport au corps, par rapport à est-ce qu'elles sont obligées ou pas de s'épiler, elles se posent des questions super tôt sur ces questions-là, est-ce qu'elles sont obligées de faire telle ou telle pratique, enfin, non, il y a vraiment, en termes de représentation et de pratique sexuelle, ça change quand même pas mal de choses. Maintenant, ils sont malins, ils sont beaucoup plus malins qu'on ne le pense, tous ces jeunes-là. Ils ont quand même conscience aussi qu'ils ont quand même une capacité d'analyse vis-à-vis de ce qu'ils regardent. Donc tout n'est absolument pas perdu. Puis sur Internet, il y a des choses aussi très positives qui émergent. Sur les réseaux sociaux, ils discutent entre eux, ils réfléchissent, ils avancent. Donc tout n'est pas noir.
Je suis rassuré, tout n'est pas perdu. Anissa, est-ce qu'on peut faire un bilan? Non, parce que c'était un débat là, en fait.
Bah, on peut dire qu'ils nous ont tous les deux dit la vérité sur leur vie quand même. Ils ont rétabli la vérité. On va leur accorder un un point chacun. Il y a match nul entre Ovidie et Frédéric Tadei.
Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain.
Combien pour ce chien dans la vitrine.
Alors là, il faut vous expliquer, Anissa, parce que je ne comprends pas ce qui se passe.
Ce sont les sons qui vont représenter notre tata flingueuse du jour, Ovidie, et notre tonton Frédéric Tadei. Alors pour Ovidie, dès que vous mènerez dans une manche, on entendra ça.
Combien pour ce chien dans la vitrine.
La chanson de Lynn Renaud, Le chien dans la vitrine, à l'occasion
de son petit festival,
du festival international de films
adapté,
de chiens.
C'est parfait,
et pour Frédéric Tadei.
Mais juste, je voudrais comprendre, c'est des films de chiens tournés par des chiens ou avec des chiens?
Alors écoute, c'est du film de chien amateur. Non mais c'est très sérieux.
Non mais sérieux.
Des films de chien amateur.
Non mais c'est un peu une sorte de déclinaison du test de Bechdel mais version canine si tu veux, c'est-à-dire
on perd du monde là.
Non,
explique.
Fait, ce qu'il faut c'est qu'il y ait au moins un des héros dans le film qui soit un chien, mais il y a une très bonne programmation, tu as des films jeunesse évidemment, mais il y a aussi du film d'auteur, il y a du nanar, il y a du film d'horreur, Cujo, tout le monde à cette table a vu Cujo ou Baxter au moins une fois dans sa vie.
Baxter, oui.
Baxter.
Cujo, moi non.
Non, Cujo,
moi,
je connais pas.
Ganesh,
Cujo.
Bah, c'est basé sur un livre de Stephen King.
Ah, oui, merci.
Oui, et voilà. Il y a un gap culturel. On est défoncé par la jeunesse.
C'est Stephen King, c'est pas.
Et alors, l'autre son.
Le son de Frédéric Tadei, c'est celui-ci.
Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain.
La chanson de Delphine de Michel Legrand dans Les Demoiselles de Rochefort, je pourrais te parler de. Lui, parce qu'il est, je vous le rappelle, directeur de la rédaction du magazine.
Moi, je croyais que c'était dû à mon grand amour pour Michel Legrand.
Aussi.
Que j'adore.
Europe 1. Ovidie et Frédéric Tadei sont les tontons flingueurs du jour autour de Carl Zéro. Jusqu'à 17h, restez avec nous. Le jeu commence dans un instant avec un quiz spécial Russie. A tout de suite. C'est un match mixte que vous écoutez aujourd'hui entre une tata flingueuse, Ovidie, et un tonton flingueur que l'on connaît bien sur Europe 1, Frédéric Tadei. Ils s'affrontent autour de Carl Zéro.
Alors Frédéric, en septembre dernier, dénonçant un PAF sinistré aux abois, tu as signé avec RT France, Russia Today, pour une hebdo qui s'appelle, je crois, Interdit d'interdire.
Qui n'est pas une hebdo, qui est une quotidienne, s'il vous plaît.
Une quotidienne, mince,
oui.
C'est un boulot
de
énorme.
De là à me compromettre, autant y aller franchement.
Tu as raison, un choix polémique, tu as raison de le dire, notamment pour le syndicat des journalistes, le SNJ, qui relève sur RT un parfum de censure d'État, chaîne est régulièrement montrée du doigt au plus haut niveau de l'État français comme supposé outil de propagande et de désinformation. Mais pour toi, ça, c'est de la pipe.
Non.
C'est une guerre puérile menée par l'Élysée.
Vous avez mal lu le communiqué du SNJ, Carl Zéro. Le SNJ en veut à l'Élysée de son comportement puéril
vis-à-vis de RT.
Vis-à-vis de RT.
Et travailler RT, c'est finalement normal.
En ce qui me concerne, je fais l'émission que je veux, j'invite les gens que je veux, personne n'a jamais été censuré. Maintenant, c'est presque devenu un sport dans mes débats qu'il y a toujours quelqu'un qui dit un truc contre Poutine, histoire de vérifier ce
que
je dis.
Et pas de remarque de la direction de RT.
Il n'y a jamais eu de remarque de qui que ce soit.
Il
n'y
a pas un mec du KGB qui vient couper tout de suite. Pas possible. Non, ça n'existe
jamais,
pas.
Jamais, ça n'est pas encore arrivé.
Merci pour la soutien.
Eh ouais, ils sont là.
Ça sentait le turbo folk, non? Le petit extrait, c'est ça?
C'est l'hymne de Poutine pour les dernières élections, je crois, présidentielles.
Ça ressemble peut-être à du turbo folk qui est serbe.
Et c'est les Poutine's Girl qui chantaient.
Très bien. Eh bien, je vous propose un quiz. Vous y attendiez 100% Russie. Un tour d'horizon exhaustif de faits divers locaux, arrosé bien sûr à la vodka frelatée. Une localité de l'Oural a suspendu un fonctionnaire. Quelle faute lourde et grave avait-il commise?
Réponse A, il a tagué le portrait officiel de Vladimir Poutine.
Réponse B, il a volé et revendu 50 km de route en béton.
Réponse C, il a laissé s'échapper son ours domestiqué qui s'en est pris à sa voisine.
Pas facile.
Moi j'aime beaucoup la route là.
Voler et revendu 50 km de route en béton.
Ça me plaît beaucoup.
Donc ouais. C'est le choix d'Ovidie. Voilà. Et pour toi?
Ben je dirais l'ours.
L'ours, eh bien malheureusement, c'est Ovidie qui remporte ce point.
Et pourquoi malheureusement?
Non,
malheureusement pour lui, oui.
Qui a bricolé un russe de génie dans sa propre cuisine.
Un petit missile intercontinental.
Réponse B, un pipeline à bière.
Réponse C, un brise-glace.
Ben, ils sont bons dans les trois.
C'est compliqué.
Je dirais un pipeline. Non, un missile.
Un missile.
Le missile, Eh ben non, non, le pipeline à bière. Ah
bah, j'hésitais, voilà.
Et voilà comment on se vautre, mais c'est pas grave car on peut se rattraper. En quel honneur une municipalité russe a organisé un festival en 2015.
Réponse A, en l'honneur de François Hollande.
Réponse B, en l'honneur des moustiques.
Réponse C, en l'honneur de prostituées urophiles proches de Donald Trump.
Ah, ça c'est un dossier que RT connaît bien. Sortira bientôt dans ton émission.
Les Russes adorent François Hollande. Ils aiment moins les moustiques. Ils adorent les prostituées, mais pas forcément urophiles.
Merci de cette précision.
Je dirais François Hollande.
François Hollande.
Moi, je dirais les moustiques quand même. Ça dépend de la latitude. Plus on va vers le nord, plus les moustiques sont vraiment très
impressionnants. Il y a le réchauffement climatique aussi.
Un bon sens
moi, je dis les moustiques.
Confondant de Vidi. Voilà, bonne réponse. Un festival des moustiques.
Visiblement, elle connaît beaucoup mieux les Russes que moi.
Quel record du monde a été battu par la Russie en 2015?
Réponse A, la combinée en ski en bikini.
Réponse B, le kilo de caviar mangé en moins d'une minute.
Réponse C, le lancer de nain ukrainien.
Alors là, je dirais le caviar.
Le caviar mangé en moins d'une
minute. Bien que ce ne soit
plus
un produit local, puisqu'on peut en fabriquer à peu près partout en France, il est très bon depuis qu'il n'est plus sauvage. Mais les Russes continuent d'aimer le caviar et de le connaître mieux que nous.
Bon, bah pour répondre quelque chose, je dirais en bikini, là, combi en ski.
Combiné en ski.
Et c'est encore une bonne réponse, c'est le combiné en ski en bikini.
Bravo.
Comme quoi la Russie a changé. Moi, au fond, mes références datent un peu, j'en ai peur.
C'est pour ça, en fait, tu es déçu. Tu as signé avec RT, tu pensais qu'ils étaient purement staliniens, mais non. Non, ça a changé. Avec quel matériau un Russe a-t-il construit son isba?
Réponse A, avec 12 000 bouteilles de champagne.
Réponse B, avec 25 000 boîtes de crabes de Sibérie.
Réponse C, avec 300 blocs de béton récupérés lors de la chute du mur en 89.
Non, bah les boîtes de conserve, les boîtes de crabes.
Des boîtes de crabes,
ouais.
Non, moi je dirais que la Russie de maintenant, celle que je ne connais pas, c'est le champagne, c'est plus le crabe, c'est fini.
Il a raison. C'est la Russie friquée, 12 000 bouteilles de champagne.
Alors, dès que j'ai mis le logiciel Nouvelle Russie.
Russia Today.
Russia Today.
Le bilan, Anissa.
Eh bien, de façon très étonnante, c'est Ovidie qui est en tête sur ce quiz spécial Russie.
Comme le disait Frédéric, elle connaît mieux les Russes que Frédéric.
Combien pour ce chien dans la vitrine
Europe 1. Vous écoutez Carl Zéro sur Europe 1 jusqu'à 17h, entouré de ses tontons flingueurs. Un match mixte aujourd'hui, un match fou entre Ovidie et Frédéric Taddeï. Restez avec nous dans un instant, un quiz spécial toutou flingueur. A tout de suite. Et jusqu'à 17h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, Ovidie joue face à Frédéric Taddeï. Et on n'en est qu'au début, donc pour l'instant, le match est serré.
Alors, histoire de vérifier vos connaissances en matière de canidés, je vous propose maintenant le quiz toutou flingueur. Très joli jingle, très efficace.
Ah, il bosse, hein.
Vrai ou faux, le plus grand chien du monde mesure 1m50.
Au garrot ou
Bah oui, pas debout. Normal, quoi.
Faux, plus haut que ça.
Mais non, pas du tout.
Non.
Le plus grand chien du monde, Fred.
Plus grand
tu es avec
chien
nous.
Du monde.
Reviens.
Non, je veux pas l'aider, j'ai été suffisamment ridicule sur les Russes, c'est ça.
Eh bien non, alors tu as perdu, Ovidie. Oui, il boude, il ne veut plus répondre. C'est
incroyable.
Un Danois nommé Zeus, un chien, hein,
oui.
Et il mesure 1m11.
Je crois que même mon chien, il fait plus que ça.
Comme tu es vantarde. Ovidie est vantarde.
J'ai un énorme dog de Bordeaux. Non, mais
1m11, c'est le Danois Zeus que tu peux inviter en tant que... Il faut des stars dans un festival de chiens.
Ben, écoute,
il peut faire partie du jury.
Tout à fait.
Président du jury même.
J'envoie mon invitation.
Vrai ou faux, les chiens s'orientent toujours nord-sud pour faire leurs besoins?
Faux.
Vrai, vrai, bien sûr, vrai.
Mais oui, vrai. Il s'aligne sur le champ magnétique terrestre.
Eh oui, on voit bien qu'elle a jamais promené un chien.
Et elle fait le festival pour chiens.
Ouais.
J'en suis pas digne.
On revient à la Russie. Une vodka pour chien vient tout juste d'être lancée aux États-Unis.
Oui, les Américains sûrement, ils sont capables de ça.
Mais
ça pour faire du taureau russe.
C'est une bière pour chien qui vient d'être lancée aux États-Unis, 100% sans alcool. Et dedans, il y a du bouillon de viande, du curcuma et de l'orge.
Oh.
Et j'ai goûté, c'est top.
Ah ouais, c'est bon.
Ouais, vraiment. Une bière pour chien, s'il vous plaît.
C'est du viandog.
Pas mal.
Petit Jojo.
Pas mal.
Il s'appelle Ganesh.
Voilà.
Le chien possède 30 muscles pour bouger les oreilles.
Ah ouais.
Ah ouais, dit Ovidie.
Ah ouais.
C'est clair.
C'est impossible.
La femelle doit en avoir encore plus.
Pour bouger les oreilles. Pourquoi les femelles?
Pourquoi?
Parce que la femelle, quand le chien pénètre la femelle, elle est capable, elle a des muscles pour retenir le sexe du chien tant qu'elle n'a pas pris son plaisir.
Mais pas par l'oreille.
Non, mais ça fait tout bouger. Ça fait tout bouger, y compris les oreilles.
J'imagine qu'il y a un rapport.
Ça n'a aucun rapport avec les ébats de nos amis, les chiens. En fait, c'est faux. Le chien possède plus de 100 muscles pour bouger les oreilles. 100
Alors, t'imagines
muscles.
Combien doit en avoir la femelle pour retenir le chien?
On parle de 500 000. En 2001, Tekel, prénommé Saucisse, s'est présenté aux élections municipales de Marseille.
Bah, il a été élu, il est toujours là.
C'est son maître, l'écrivain Serge Scotto, qui l'a présenté. Et il a recueilli combien de pourcents des voix? Le chien Saucisse.
Scotto, c'est probable parce que c'est Vincent Scotto, très célèbre, ça marseillais. Fils, ouais, donc j'imagine de que tout ça est vrai.
Tout est vrai. Absolument, toi tu dis plus rien donc je...
Si. Non, si, moi j'y crois. Oui.
Tu crois
j'y
aussi, crois. Tout est
oui,
vrai.
Oui, j'y crois pleinement.
Et Saucisse a recueilli 4% des suffrages.
Ah quand même.
Ce qui pour un chien,
c'est
incroyable. Là, Saucisse, vraiment, faut l'inviter au festival.
C'est une star.
Non, mais c'est
une vraie star.
Idée.
Mais il n'est pas mort, je crois.
Ah non, dites pas ça.
Saucisse n'est pas mort.
Bah, c'est en 2001 quand même.
Eh bien, il a peut-être un enfant, Saucisse. Ce sera le fils de Saucisse. Écoute, c'est pas très grave. À l'université de Tolbiac, a peut-être un autre invité lors de
le chien de Tolbiac, bien sûr.
Sempiternelle grève de l'an passé. Les étudiants présentaient comme leader le chien Guevara. Vrai ou faux?
Oui, bien sûr, vrai, évidemment.
Tout le monde s'en souvient.
Bien sûr.
Guevara, qu'il faut inviter également à ton festival, Ovidi, le festival des chiens. Le bilan, Anissa.
Alors, avant le bilan, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Saucisse est mort.
Saucisse est mort le 24 novembre 2014.
Minute de silence pour Saucisse.
Il ne pourra pas être au festival.
Est-ce qu'on se met de la boue dans les cheveux?
Cette émission est décidément très étonnante, puisque sur ce quiz toutou flingueur, c'est Frédéric Taddeï qui prend la tête.
Incroyable! Quel retournement de situation, j'ai du mal à y croire. Tout peut arriver sur Europe numéro 1.
Ovidie et Frédéric Taddeï s'affrontent, ils jouent ensemble, ils sont les tontons flingueurs de Carl Zéro jusqu'à 17h sur Europe 1. Dans un instant, un quiz toile de maître, ça c'est pour Frédéric Taddeï. Puis on va s'écouter de la musique, le nouveau titre de Christine and the Queens, 5 Dolls, à venir sur Europe 1. Jusqu'à 17h, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui s'affrontent Ovidie et Frédéric Taddeï.
Alors mon cher Frédéric, si tu te retrouves au cinéma avec cette expo Caravage, c'est parce que tu as présenté avec brio 16 années durant sur France 2 Dard.
Absolument.
Avant que tu ne te fasses fusiller par Delphine Ernotte, mais que tu échappes de peu à la mort. Alors on va faire regretter France Télévisions en leur montrant tes connaissances avec ce quiz toile de maître.
Putain, attention, touche pas, c'est un monochrome de White Man. Une fortune, ça.
Ah oui, c'est un tableau, quoi.
En 61, quel peintre français a vu son tableau exposé à l'envers pendant 47 jours au musée d'art de New York?
Réponse A, Claude Monet.
Réponse B, Henri Matisse.
Réponse C, les frères Ripollin. J'ai honte. Je m'excuse.
Écoutez,
ça peut être les frères Ripollin.
J'aime
même
beaucoup les frères Ripollin. Je vais me m'auto-suicider en répondant les frères Ripollin.
Bonne réponse, David.
Ce serait drôle. Ce serait tellement drôle.
Je pense que ça peut pas être Matisse non plus, parce qu'on voit tout de suite dans quel sens ça se met. En revanche, Claude Monet, ça pourrait marcher. Les nénuphars, à mon avis, les Américains, ils peuvent les mettre à l'envers. Ouais.
Mais bien non.
Non, c'est Matisse.
Il s'agit d'une toile intitulée Le Bateau. Et le bateau était à l'envers et personne ne s'en est rendu compte. Mais en même temps, c'est vrai, il s'était pas fait chier pour dessiner le bateau, il n'était pas clair que c'était un bateau. Bref, que n'hésitait pas à faire le peintre Pierre Bonnard avec ses propres toiles?
Réponse A, à les voler dans les musées.
Réponse B, à les retoucher dans les musées.
Réponse C, à uriner dessus dans les musées.
Non, il les retouchait. Et c'était très drôle.
C'était drôle.
Parce que parfois, il se faisait choper par le gardien.
Mais qu'est-ce que vous foutez? Ben, je retouche.
Oui. Mais allez prouver que c'est bien vous qui avez fait de la toile.
Eh ouais. Bonne réponse de Frédéric et aussi de Vili. Rembrandt est-il le nom ou le prénom du célèbre peintre hollandais du même nom? Nom ou prénom?
Non, c'est son prénom.
Son prénom? Ah, merde.
Non, mince, on dit, on est à Europe.
Pardon, excusez-moi. Diantre, ça perd l'hypopète. Ah, d'accord.
Effectivement, c'est car Rembrandt, son nom, c'est Van...
Ruin.
Rein.
Je ne sais pas le prononcer.
Rein. Ça s'écrit R-I-J-N. Et pareil, on me l'a mis. Hein. Prononcer Rein. Pour se faire chic. Rembrandt van Rein. Salut, Van. Bon, ok. Quel service, cher Baudelaire, a-t-il exigé du peintre Gustave Courbet?
Réponse A, qu'il efface son ancienne maîtresse d'une toile.
Réponse B, qu'il illustre la couverture d'un de ses recueils de poésie.
Réponse C, qu'il vienne repeindre ses toilettes.
Oh, c'est stupide.
Je l'ignore, mais c'était un très très bon critique d'art.
Oui, et un très bon ami de Courbet.
Ah bah oui, puisque c'était un bon critique d'art, donc forcément il avait surpéré les bons.
Alors ?
De là à lui demander d'effacer une ancienne maîtresse, ce serait pas bête.
Ça serait pas bête, Ovidie ?
Ce serait pas bête.
Moi j'ai envie de répondre la deuxième, mais je saurais pas dire quel recueil de poésie. Donc
oh bah il y en a qu'un, c'est les fleurs du mal.
Allez B.
Tu tentes ?
Moi ouais, je tente.
Tu as eu tort, mais c'est pas grave.
Non, mais je suis bonne perdante.
Et alors on a des détails croustillants sur la maîtresse.
Il l'a simplement recouverte de peinture. La dame en question, Courbet, mais avec le temps. Maintenant, on distingue la silhouette sur le tableau, l'atelier du peintre.
Pas pensé à ça.
Mais c'est qui est caché là, avec les roploplos ? Eh ben, c'est la fiancée à l'autre.
C'est ça, la silhouette de la peinture. Vous imaginez dans les émissions de télé, si tout ce que les producteurs coupaient réapparaissait au bout d'un moment.
ça serait bien. Ça serait merveilleux. Anissa.
Le bilan de cette manche spéciale tableau de maître, eh bien, c'est Frédéric Taddeï qui est en tête face à Ovidie.
Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain.
Europe 1. Ovidie et Frédéric Taddeï jouent sur Europe 1 jusqu'à 17h. C'est le programme de votre après-midi. Ils sont les tontons flingueurs de Carl Zéro. Dans un instant, un quiz spécial reconversion. A tout de suite. Tous les jours sur Europe 1 de 16h à 17h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs et il joue autour de l'actualité. Aujourd'hui, un duo inédit, Ovidie, Frédéric Taddeï.
Et l'annonce du décès prématuré du chien Saucisse a bouleversé Ovidie.
C'est vrai.
Mais qui va revenir très fort. Car Ovidie, souviens-toi, en 2011, tu as réalisé pour l'émission Envoyé spécial un film intitulé Rabillage. 5 millions de téléspectateurs ont suivi les discriminations sociales que subissent les anciennes stars du X, tant du point de vue professionnel que familial, affectif, sentimental, tout ce que tu veux. L'occasion de revenir au travers d'un quiz édifiant sur ce qu'il advient de celles et ceux qui ont commencé dans le X. Jingle. Alors elle s'appelait Nadia Hilton, elle a passé 10 ans dans l'industrie du film pour adultes. Quelle voie a-t-elle choisie aujourd'hui ?
Réponse A, elle est journaliste à Fox News.
Réponse B, elle est devenue prédicatrice chrétienne.
Oui. Réponse C, elle est tradeuse à Wall Street.
Ovidie ?
Réponse B, il y en a pas mal d'Américaines qui sont devenues pasteurs, donc je dirais B.
Oh, moi je pense que Ovidie a raison.
Bonne réponse d'Ovidie et donc de Frédéric qui s'est collé à Ovidie. Pour quel réalisateur l'actrice Sacha Grey a-t-elle tourné après avoir mis fin à sa carrière d'actrice X ?
Réponse A pour Steven Soderbergh.
Réponse B pour James Cameron.
Réponse C pour Steven Spielberg.
Soderbergh.
Bonne réponse également des deux.
Girlfriend's Experience.
Bravo, et aujourd'hui elle écrit.
Et c'est le moins bon film de Sacha Grey, il faut bien le dire.
Quel comique français a commencé dans Godfinger où certaines chattes n'aiment pas le mou?
Réponse A, Michel Leeb.
Réponse B, Jean-Marie Bigard.
Réponse C, Popek. J'étais en train de visualiser.
Envie de répondre Popek.
Tout le monde a envie de répondre Popek.
Je pense que...
Tout le monde a envie de le voir dans Godfinger. Ouais.
Mais pourtant, je pense que c'est Michel Leeb.
Ouais.
Bonne réponse, c'est effectivement Michel Leeb. Après avoir quitté l'industrie du X, Nina Roberts est devenue...
Réponse A, chanteuse et bassiste d'un groupe de rock.
Réponse B, éleveuse de moutons dans le Vercors.
Réponse C, navigatrice autour du monde.
Alors, réponse A, mais ça n'est plus d'actualité, elle est coach sportive.
Ah, elle a laissé tomber la chanson.
Oui, tout à fait. Comment ils appelaient ce groupe ? C'était Pravda ? C'était pas ça, ce...
Et malheureusement, vois-tu, là, il y a du blanc sur ma fiche.
Mais alors...
Et donc, je suis incapable de te le dire, car je n'ai pas écouté ce groupe. Qui est devenue l'ancienne actrice des années 2000, Oksana ?
Réponse A, elle est auteure de livres de science-fiction.
Réponse B, c'est la dernière militante de Benoît Hamon.
Réponse C, c'est l'avocate d'Alexandre Benalla.
Elle doit être auteure de science-fiction.
Elle est auteure de science-fiction, effectivement.
Bonne réponse de tous les deux. Ah, une déclaration magnifique maintenant en 91 qui a dit « Je suis prête à faire l'amour avec Saddam Hussein pour rétablir la paix au Moyen-Orient ».
Réponse A, la Cicciolina.
Réponse B, Tabata Cash.
Réponse C, Zara White.
Bah, la Cicciolina, évidemment.
Évidemment.
Ça ne peut être qu'elle. C'est une bonne réponse commune de nos amis.
La Cicciolina, il faut rappeler qu'elle était députée.
Elle a été députée.
Et qu'elle a été la femme de Jeff Koons aussi.
Ouais, absolument. Et il y a eu une expo absolument incroyable avec des photos vraiment porno, pour le coup.
Enfin, c'était un petit peu de peinture sur la photo, mais...
Oui, mais ça a été ta meilleure audience à Darda.
Non, je ne l'ai pas faite, celle-là.
Ah, voilà. Bah, tu peux le faire sur RT, maintenant, écoute. Alors...
C'est Ovidie qui mène, maintenant, ouais. Décidément. C'est un match à rebondissement cet après-midi sur Europe 1.
Pour ce chien dans la vitrine.
Europe 1. Ovidie et Frédéric Taddeï sont les tontons flingueurs de Carl Zéro jusqu'à 17h sur Europe 1. Dans un instant, la toute dernière manche de cette émission, qui va gagner, vous le saurez en restant avec nous. Ils vont répondre aux interviews Retour vers le futur. Et puis de la musique, Jane Oman à venir sur Europe 1. Jusqu'à 17h, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Ils s'amusent, ils parlent de leur parcours, entre autres tous les jours, Ovidie et Frédéric Taddeï.
Alors attention, maintenant, c'est l'heure des interviews vintage.
Rendez-vous dans le futur. Oh la vache.
Magnifique jingle de nos amis de la régie. En décembre 2007, Frédéric, tu as reçu ton bâton de maréchal. Lequel?
En septembre 2007.
Mais oui.
Ah oui, j'ai été le premier à recevoir le prix Philippe Calonique du meilleur intervieweur.
Voilà, talent, éclectisme...
Je l'ai eu à l'unanimité.
C'est génial.
Je peux vous dire que plus aucun ne peut se prétendre l'avoir eu à l'unanimité. Parce que depuis, je siège au jury, je vote toujours non.
Et donc, pour cette interview vintage, vu que tu as eu le prix Philippe Calonique, évidemment, c'est toi-même qui vas te poser les questions. On y va.
Vous allez répondre à la question rituelle. Quel est le style de notre époque?
Ah. Là, vous savez que depuis le temps, je me dis un jour, quelqu'un va me la poser. Et c'est moi qui me la pose et je suis incapable de répondre.
Reprenez-vous, Frédéric.
Et à mon avis, le style de notre époque, ce dont nos petits-enfants seront nostalgiques, vous voyez, quand ils penseront au début des années 2000, c'est ce que j'ai devant les yeux. Là, c'est un iPhone, c'est la forme de l'iPhone. Et c'est sa couleur gris métal. Maintenant, ils sont blancs, ils sont noirs, ouais. Ils ont plein de couleurs. Mais quand nos petits-enfants regarderont cette espèce de rectangle pas tout à fait parfait, avec cette couleur grise, je suis sûr qu'ils diront c'était ça le style des années 2000.
Qu'est-ce qu'on ne fait plus depuis le début du 21e siècle? Qu'est-ce qui est en train de disparaître?
Et gna gna gna, gna gna, il est pénible.
Qu'est-ce qui est en train de disparaître?
Tout.
Tout?
Oui.
Est-ce que tout fout le camp?
C'est-à-dire que souvent, quand je posais cette question sur Europe, il y en avait plein qui me disaient tout. Et je disais, bon, c'est un peu facile. Et en fait, je m'aperçois que oui, c'est un peu facile, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est plus facile de répondre tout d'un air un petit peu désabusé. Oui. Plutôt que de commencer à chercher ce qui disparaît vraiment.
Mais toi, Fred, dans la vie, tu es désabusé ou pas?
Pas du tout.
Pas du
Moi,
tout.
J'adore cette époque, je la trouve pleine de rebondissements, un peu comme ce jeu.
Où en sommes-nous du mouvement des Gilets jaunes, d'après vous?
Alors là, je dois dire que je ne l'ai pas vu venir. Dès le premier truc, j'ai fait un débat. Franchement, je pensais que ça ne durerait pas. Donc, je préfère arrêter de faire des pronostics.
Est-ce que vous voyez que ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, comme un mouvement, une révolte contre l'Europe?
Là, ce n'est pas un pronostic que je te demande. Est-ce qu'on est face à deux France vraiment, celle d'en haut, celle d'en bas, les élites?
Je pense que chez les Gilets jaunes, il y a une révolte contre l'Europe, mais je pense que, hélas, les seuls qui pourraient résoudre les problèmes des Gilets jaunes, c'est au niveau européen que ça pourrait se résoudre, et pas tellement au niveau national. C'est-à-dire que.
Ah bon, on n'est pas dans la merde.
Le gouvernement, oui, il est totalement impuissant à résoudre les problèmes des Gilets jaunes. L'Europe pourrait en partie, oui. Mais elle ne le fera pas.
Et pourquoi elle ne le fera pas?
Parce que ce n'est pas l'Europe qu'auraient voulu ceux qui auraient envie éventuellement de résoudre les problèmes des Gilets jaunes. Ce n'est pas cette Europe-là.
Mais ils voulaient quoi? Une Europe de quoi?
Ça aurait été une Europe social-démocrate. Ouais. Ce qu'espéraient ceux qui ont donné son coup d'envoi supplémentaire à l'Europe dans les années 80, c'était plutôt des sociaux-démocrates. Et ils espéraient que ce serait ça. Mais il y avait aussi Margaret Thatcher, il y en avait d'autres. Et pour avoir l'Europe, ils ont dû faire quelques sacrifices. Et
trop,
finalement,
peut-être.
Ça n'est pas l'Europe social-démocrate qu'ils espéraient.
Voilà.
Mais une Europe social-démocrate avec les pouvoirs de l'Europe aurait résolu les problèmes des Gilets jaunes.
Donc tu penses qu'on va pas s'en sortir?
Ah, j'ai pas dit ça.
Donne-nous un peu d'espoir, Ovidie, et envie de pleurer. Ok, on l'applaudit. Et je me tourne vers Ovidie, qui nous fait le plaisir d'être notre tata d'un jour. Et toi, c'est Michel Drucker qui va te poser des questions.
Fabuleux,
il aime les chiens déjà.
Oui, déjà.
Mais rassure-toi, elles sont extraites d'une interview extrêmement rare qu'a fait Michel Drucker. C'était celle de Simone de Beauvoir. Car il a interviewé, c'est incroyable, Simone de Beauvoir. Première question.
Je voudrais vous demander pourquoi vous avez attendu si longtemps pour vous raconter devant une caméra.
Mais je pense que je ne me suis jamais raconté devant une caméra de toute façon.
C'est pour ça que tu attends.
Non, je me raconte pas, mais je pense que si j'ai pris un pseudo aussi, c'est pour envoyer quelqu'un d'autre que moi au front. Enfin, c'est pas pour rien.
Ça, je peux
comprendre. C'est pour ça que j'ai conservé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai conservé ce pseudo, même pour faire des activités, on va dire, institutionnellement reconnues. Voilà, c'est pour ça que je fais mes documentaires aussi sous ce nom-là. C'est parce que c'est quand même très confortable d'envoyer quelqu'un d'autre que soi au front.
Vous considérez que les journalistes, qu'une certaine presse, n'a pas toujours écrit des choses conformes à ce que vous souhaitiez ?
Ça, oui, bien sûr, c'est certain. Enfin, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le but du jeu, c'est générer du clic quand même sur des articles. Donc le but du jeu, c'est mettre les mots-clés, les bons mots-clés où il faut, trouver un titre un petit peu putassier. Et la plupart des gens, d'ailleurs, ne lisent pas plus, ne vont pas plus loin que la lecture du titre. Ils vont passer des heures et des heures à débattre sur les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas lire les articles. Finalement, en général, quand il y a des articles où je ne suis pas vraiment satisfaite de ce qui peut sortir sur ma pomme, en général, je m'en prends plus au community manager ou alors à celui ou celle qui écrit les chapeaux, parce que les journalistes n'écrivent pas toujours les chapeaux de leurs articles.
Vous parliez d'ailleurs, à cette époque-là, pour la première fois, on en parlait avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, de la vie sexuelle des femmes.
Question étrange, mais...
Oui, question curieusement...
Si, on peut dire que quand tu faisais du porno, tu parlais d'une certaine façon de la vie sexuelle des femmes.
Oui, mais quelque part, j'en parle aussi toujours. C'est-à-dire, moi, la sexualité en soi, elle m'a jamais... Je ne suis pas quelqu'un de très libidineux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un grand secret non plus. Bizarrement, paradoxalement. Ouais. Mais ce n'est pas la sexualité en soi qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt ce qu'elle raconte de nous, ce qu'elle raconte de notre société. Et je le fais toujours à travers un documentaire. C'est en ce sens-là aussi où je dis que je suis restée constante.
Michel ?
Bon, comment voyez-vous l'évolution des mouvements féministes ? Et comment voyez-vous l'avenir des femmes de notre époque ?
Moi, je le vois positivement déjà parce que je vois que la relève est là, je vois qu'il y a émergence d'un féminisme 2.0 sur les réseaux sociaux, je rencontre moi plein de jeunes filles, même tout à l'heure je parlais d'intervention dans les lycées, je vois plein de jeunes filles qui sont énervées, qui ont envie de faire bouger les choses, qui sont dans une démarche positive et voilà, non, j'ai plutôt bon espoir. Après, je pense qu'il y aura des retours de bâton, je pense qu'il y aura ce qu'on appelle l'effet backlash, je pense que plus il y aura des mouvements féministes qui vont se radicaliser, plus en face, on va remettre en question les droits les plus fondamentaux.
Merci Ovidie, on l'applaudit.
Carl Zéro et ses tontons flingueurs vous donnent rendez-vous tous les jours à 16h sur Europe 1 et même le week-end. Donc rendez-vous demain, samedi et dimanche, 16h-18h pour les best-of. Et lundi, Carl Zéro sera entouré de Jean-Pierre Foucault et Philippe Lelouch. Europe 1.